cigarette then. Give me a cigarette then.
Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd. Et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 1. Alors si tu débarques ici par hasard, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0 qui est l'épisode de la présentation et qui va tout te dire sur ce qu'est un Lloydcast, pourquoi, comment et à quelle fréquence. Pour rappel, dans le Lloydcast, il y a deux catégories. Les résonances, qui sont des sujets que j'aborde seul en espérant que ça résonne chez toi. Et les remarquables, qui sont des échanges avec des personnalités que je trouve donc remarquables et ou inspirantes. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal, j'ai la chance d'avoir comme invité une personne à la fois remarquable et inspirante. Elle est talentueuse, elle est redoutable, c'est une auteure que j'aime énormément, elle a un charme à faire fondre le coudron, mais si tu la siffles dans la rue, je ne donne pas cher de ta peau parce qu'avec sa pratique du Krav Maga, elle te fait devenir une hôtesse de l'air. Natacha Astuto, bienvenue.
Salut Lilian, merci.
Voilà, merci d'être donc, malgré toi, la marraine du Lloydcast.
Oui, mais avec grand plaisir.
Voilà, tu as 27 ans comme moi, hein. Tu as deux magnifiques filles, un mari qui fait peur mais qui en réalité est adorable, d'ailleurs je le salue Cédric. Tu as une activité professionnelle mais tu es surtout auteur. Alors tu dis auteur, toi, auteuse, autrice?
Je dis auteur, ouais.
D'accord,
enfin,
comme moi.
Enfin je dis auteur, mais j'écris auteur, ouais.
Voilà. Donc tu es auteur et comédienne. Mm-hmm. On s'est rencontrés à Annecy il y a un an et demi lors d'un festival de théâtre amateur dont le parrain de ce festival c'était Jean-Paul Allègre. Et
ouais.
Jean-Paul Allègre est notre parrain, à toi et à moi, d'écriture. Et il est aussi le parrain d'un autre camarade qui s'appelle Nicolas Maury, que je salue au passage, qui doit écouter cet épisode.
Salut Nico.
Alors, il va y avoir une tradition dans les Lloydcasts. Au début, je vais demander à mon invité... Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu veux boire? Je te sers quelque chose? Et comme c'est virtuel, tu peux prendre tout ce que tu veux.
Ah, oh, cool. Alors, une Guinness.
C'est ta bière préférée?
Ouais, en bière, oui, c'est ma préférée, ouais.
Est-ce que tu bois quand t'écris?
Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Non, je ne bois pas quand j'écris. Je bois du café et de l'eau.
T'es toujours sobre?
Quand j'écris, ouais. C'est déjà assez difficile comme ça.
Donc, tu as écrit une dizaine de pièces?
Oui, à peu près, ouais. Ouais.
T'en as édité deux, trois?
J'en ai édité deux, ouais, aux éditions Les Mandarines.
Comment t'es arrivée, toi, à l'écriture?
Un peu par hasard. Non, pas par hasard. J'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup de choses. J'ai toujours aimé écrire. Et je m'exprime mieux par écrit qu'à l'oral, en fait. Et donc, je suis toujours passée par l'écriture pour m'exprimer. Et puis, mais c'est tombé un peu dans un... C'est arrivé dans un concours de circonstances. C'était en 2004. On avait un hôpital de la région qui fêtait ses 100 ans. Et puis, la direction de l'hôpital s'est approchée des trois troupes de la région et a demandé est-ce que les trois troupes, vous pourriez vous mettre ensemble et monter quelque chose pour fêter le centenaire de l'hôpital. Mmh. Et à cette époque-là, bah, ils avaient dit, oui, ce serait bien que vous jouiez le malade imaginaire, le médecin malgré lui, enfin, quelque chose comme ça, une pièce du répertoire. Et en même temps, il y avait un monsieur, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Devenoge, sous la direction duquel j'avais joué à plusieurs reprises dans une troupe qui s'appelle La Mouette, qui m'avait dit « Oui, mais… » Et puis, mais toujours la pipe comme ça. Et il m'a dit à l'époque « Oui, moi, je pense que tu devrais écrire quelque chose pour cet événement. C'est l'occasion. Toi, tu devrais écrire pour le théâtre. » Et j'ai vraiment été surprise. J'ai dit « Ah bon, tu crois vraiment ?» Il m'a dit « Oui, parce que tu as le sens du théâtre. » Alors, je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire d'avoir le sens du théâtre. Mais bon, vu que lui, qui est toujours d'ailleurs, je l'ai vu ce week-end dernier, un monument du théâtre de la région ici où je vis, je me suis dit « Bon, si lui il le dit, peut-être qu'il faut que j'essaie. » Et du coup, j'ai essayé, mais j'ai dit « Bon, écoute, je veux bien écrire quelque chose, mais si jamais ce n'est pas bon… » Il faut qu'on puisse monter autre chose si ça va pas, si ça vient pas. Et il m'a dit, bon, ben, si jamais c'est pas bien, on jouera le médecin malgré lui ou le malade imaginaire. Donc, en fait, tu vois, j'avais Molière en backup, tu vois.
Mmh. Donc, sur le banc des remplaçants.
Voilà. Donc, je me suis dit, dans ces conditions-là, ça va, je peux essayer. Et puis, voilà. Donc, j'ai écrit et ils ont accepté la pièce.
Et alors, il y a quelque chose que je n'ai pas, une chose que je n'ai pas dite. Quand même, et c'est que en entendant légèrement ton accent, je commence par une auteure qui n'est pas française.
Exact.
Tu es
suisse. Je vis en Suisse, oui.
Voilà, exactement. Tu vis en
Oui.
Suisse. Et donc, suite à cette expérience, tu as commencé, tu as écrit cette première pièce.
J'ai écrit cette première pièce qui s'appelle Un hôpital pour 6 francs, qui est une pièce en 9 scènes, en 9 tableaux, avec 36 ou 38 personnages, un truc un peu de fou comme ça, enfin une immense bastringue. Et ce que j'ai beaucoup aimé faire à l'époque, c'est que j'ai dû me plonger dans les archives, dans les coupures de journaux, de l'histoire de l'hôpital, puisque je voulais me baser sur la trame, en fait, qui était l'histoire de l'hôpital. Donc j'ai utilisé ça et après j'ai mis plein de choses qui ne sont pas du tout arrivées dans cet hôpital, mais qui me faisaient rire ou qui me faisaient plaisir. Et donc ça m'a plu parce que j'ai finalement fait un tableau par décade et je trouvais ça bien. De faire ça comme ça parce que ça me permettait de faire jouer plein de monde et puis de finalement de faire des tableaux qui avaient des styles différents. Il y en avait des plus dramatiques, des un petit peu plus comiques, des plus burlesques, enfin voilà. Donc j'ai pu faire plein de choses, m'amuser et puis j'y ai pris goût d'arriver à la première, de voir mes personnages prendre vie, de voir ce truc de fou quand t'as tous ces comédiens qui ont appris tes mots. Ces metteurs en scène qui ont décidé de raconter tes histoires, qui ont mis tout ça autour. Enfin, ça a été un moment incroyable de voir le boulot qui est fait en partant finalement de mon travail et de dire ben on le prend comme quelque chose d'ac, enfin comment dire, comme de l'argent comptant. On fait confiance, puis on y va, on travaille là-dessus. Et on se demande pourquoi le personnage fait ça, pourquoi il dit ça, comment il est. Enfin, il y a eu un immense travail autour de mon texte. Et j'ai trouvé que c'était presque trop d'honneur, quoi. Ça m'a un peu bouleversée à l'époque. Et j'ai eu envie de continuer à écrire. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai des troupes qui m'ont commandé des pièces. Parce que je suis pas sûre que sinon, j'aurais continué d'écrire. J'avais pas suffisamment confiance en moi pour me dire, ah bah oui, je vais écrire et puis les gens, ils vont jouer mes pièces. Donc, le fait que des troupes me commandent des pièces, ça m'a aidée à continuer à écrire, en fait.
Est-ce que tu as vu ensuite des mises en scène de tes propres pièces qui t'ont déplu?
Je n'ai pas vu. Oui, j'en ai vu une. J'en ai vu une effectivement qui était où je me suis dit, oh là là, ils ont pas compris. Puis après, je me suis dit que c'était peut-être moi qui m'étais mal expliqué. Mais ouais, après, ça arrive quoi. Je pense que c'est normal que ça arrive. De nouveau, maintenant, j'ai suffisamment de recul pour me dire que bon, bah, c'est comme ça. J'arrive quand même à prendre du plaisir dans le sens où je me dis ben ok je me dis ben, ils ont pas compris, ok ils ont compris quoi finalement ou qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, et j'ai réussi sans vouloir être démago à arriver ni condescendante à me dire ouais ils ont travaillé dessus, ils ont voulu transmettre un message qui est peut-être pas celui que j'avais prévu ou celui que j'avais imaginé, mais le travail a quand même été fait. C'est pas pareil que quand le travail n'a pas été fait. Mais ça, je l'ai pas encore vécu. Des pièces, j'ai jamais vu de mise en scène de mes pièces où ils savent pas le texte, où ils ont pas travaillé dessus, enfin où ça ressemble à rien, quoi. Ça, j'ai pas vu. Donc,
Mais
je
ça
peux pas
arrive
dire.
aussi que tu aies des metteurs en scène qui comprennent ton texte à l'envers.
Ouais.
C'est par expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé sur National 666. Je m'en rappelle très bien et je tairai le nom du metteur en scène. Mais
Ouais.
à la sortie de la pièce, j'avais quasiment déchiré un fauteuil. Et quand les comédiennes sont arrivées vers moi pour me demander ce que j'avais pensé de la pièce, alors elles m'ont dit, c'est moi qui ai écrit cette merde. Toi, avec ta double casquette d'auteur comédienne, est-ce que tu as une préférence? Tu préfères écrire ou jouer?
Alors là, j'aime pas ta question parce que
Enfin, s'il y a une préférence d'ailleurs, t'es pas
non,
obligé d'en avoir
écoute,
une.
j'en ai pas. C'est comme si tu me demandais qui je préfère entre mes deux enfants, quoi. C'est pas possible. Je peux pas répondre à cette question parce que ce sont deux choses tellement différentes. J'aime vraiment, vraiment beaucoup écrire et je voudrais instinctivement te dire que j'aime mieux écrire. Aussi parce que ça me permet de m'exprimer par mes propres mots, de faire vivre des personnages que j'aurais voulu être ou que je connais ou des gens à qui j'ai envie de rendre hommage parce que je fais beaucoup ça dans mes pièces. Mais j'aime tellement jouer. La scène, c'est finalement le meilleur endroit au monde, je crois, quand j'ai les pieds sur une scène. Ouais, je peux pas négliger ça. Si je te réponds ici maintenant à froid, assise là où je me trouve, j'ai envie de te dire écrire, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si je repense à quand j'ai les pieds sur ce parquet, sur cette scène, ouais, je pourrais pas choisir. Je voudrais jamais avoir à choisir entre les deux.
On a un point commun, toi et moi, c'est qu'on écrit et qu'on va jouer à des moments nos propres pièces. Est-ce que quand tu t'écris un personnage, déjà, est-ce que tu sais que tu vas t'écrire un personnage que tu vas jouer? Et qu'est-ce que tu vas t'écrire comme genre de personnage? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu as envie de sortir de ta zone de confort? Ou est-ce que tu fais quelque chose que tu voudrais être? Est-ce que tu écris un personnage que tu voudrais être?
C'est marrant comme question parce qu'en fait, je l'ai jamais fait, ou peut-être une demi-fois, mais je l'ai pas encore joué, ce personnage, et je sais pas si je le jouerai, je pense que oui, mais sinon, non, je l'ai jamais fait. D'abord, j'ai joué que dans une de mes pièces, et c'était un remplacement. C'était quelqu'un d'autre qui devait jouer, ça s'est pas fait, et puis finalement, Cédric, qui faisait la mise en scène, m'a dit, est-ce que tu veux prendre le rôle, est-ce que tu peux le prendre? Et donc finalement, bon, mais j'ai accepté de prendre le rôle, mais j'étais pas tellement d'accord, en fait, de jouer dans ma propre pièce. Pourquoi? Parce que je me disais, et c'est là que je vois qu'on est un peu différents, je me disais, mais que vont dire les gens? Ils vont dire, machine, elle s'écrit des rôles. Et je voulais pas ça. Je voudrais écrire des rôles pour d'autres. Donc, quand j'écris, j'écris pas pour moi, j'écris pour d'autres. Je vois les visages d'autres personnes. Je vois en général des gens que je connais, ou des fois des célébrités, mais c'est par hasard. Mais en général des gens que je connais, mais je m'écris pas des rôles, non. Donc, si je devais répondre à ta question en disant si je devais m'écrire un rôle, qu'est-ce que je voudrais? Ouais, alors j'écrirais un truc où je serais quelque chose que j'ai toujours voulu être. Mais comme j'ai toujours voulu être un million de choses, j'aurais le choix.
Alors, dans le Lloydcast, il y a un petit personnage qui est une petite souris et qui étudie, enfin qui aime bien regarder ce que font mes invités lorsqu'ils font leur passion, leur travail, etc. Si je suis cette petite souris et que je vois Natacha Astuto travailler, qu'est-ce que je verrai?
Alors j'ai envie de te dire, ça doit pas être beau à voir. Non, mais j'ai un joli petit bureau prévu pour écrire et j'ai jamais pu écrire dessus parce que j'y suis pas bien. Je sais pas pourquoi. Et finalement, j'avais prévu d'écrire au sous-sol parce que c'est un endroit qui est cosy où je peux m'isoler et ça va pas non plus. Et donc en fait, j'écris dans mon salon sur donc ça casse tout, hein, mais j'écris dans mon salon assis sur le canapé, plié en deux parce que mon ordinateur est sur la table basse, qui est pas si basse, mais quand même. Et donc j'écris là comme ça, plié en deux, dans une position tout à fait inconfortable. Mais c'est là que ça vient. Alors, ça paraît complètement ridicule parce que j'ai toujours un petit peu ri de ces gens qui disaient, ah oui, alors moi, l'inspiration, je l'ai plutôt ici, plutôt là. Mais en fait, je me rends compte que ouais, je suis bien là pour écrire. C'est un endroit où je me sens bien. Peut-être qu'il y a un nœud tellurique, je sais pas, mais c'est là que je me sens bien pour écrire et quand j'ai envie d'écrire, c'est là que je viens. Après, quand je suis très inspirée ou très pressée, parce que je fonctionne assez bien avec les délais, je peux écrire n'importe où. Il m'est arrivé d'écrire sur une terrasse alors que toute ma famille prenait le dessert un dimanche après-midi parce qu'il fallait que je termine quelque chose et je me suis mise en bout de table et j'ai terminé ce que j'avais à terminer. Donc, mais en général, non, j'écris plié en deux sur mon canapé.
Et est-ce que tu as des rituels autour de l'écriture? Une mise en condition?
J'ai le défaut de fumer, donc je fume un peu trop. Je bois beaucoup d'eau, je bois du café, et puis j'écoute de la musique. Je mets un casque sur les oreilles. Ça aussi, c'est important d'avoir le casque sur les oreilles. Je peux pas, quand je mets de la musique, ça m'arrive. Je le fais de temps en temps. Je mets de la musique sur un petit haut-parleur additionnel que j'ai, mais ça marche moins bien que le casque sur les oreilles. Je pense que ça m'isole, ça m'envoie dans un autre monde, ou ça m'aide à me mettre dans un autre monde. Donc oui, j'ai ce rituel de la musique. La musique, c'est capital pour moi, mais pas que pour écrire.
Comment tu fais pour gérer à la fois une vie de famille, un boulot et ton boulot d'auteur? Parce que tu peux pas être discipliné comme quelqu'un qui voudrait, comme Amélie Nothomb, je crois, qui dit qu'elle
Ouais.
commence à écrire de 8h à 13h et de 14h à 17h.
Ouais.
Comment tu organises toi tes journées quand tu veux écrire, quoi?
Oui, j'entendais, j'ai rencontré une fois Rémi DeVos qui
Oui.
disait qu'il s'obligeait à écrire 3 pages par jour. Et qu'avec ça, ben, ça lui permettait de terminer dans les délais, etc. Ou Amélie Nothomb qui se lève, je crois, même à 4 heures du mat, et puis elle écrit. Et puis quand je les écoute, ces gens-là, ouais, je les envie. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais effectivement, j'ai un travail. Donc le matin, tous les jours de la semaine, je pars travailler à une demi-heure de route de chez moi. Et en fait, donc je peux pas avoir cette discipline où on pourrait dire ben, à telle heure je me pose et j'écris. Après je les envie mais je suis pas tellement sûre que je serais capable de le faire en fait. J'en sais rien du tout. J'écris le soir, j'écris la nuit parfois et puis j'écris des jours comme ça où je suis complètement seule où effectivement je fais que ça. Ça m'arrive d'être des week-ends où Cédric et les filles partent en week-end, où Cédric fait des mises en scène en France, fait une mise en scène actuellement avec une troupe qui est sur 2 pays. Donc, il fait des petites résidences de 4, 5 jours à l'extérieur. Et pendant ces moments-là, alors oui, là, je ne fais qu'écrire. Je me l'impose. Je m'impose de dire, tu fais pas autre chose. Je commence pas à lire un bouquin ou je m'impose d'écrire parce que j'ai des pièces en commande qui attendent, qui sont attendues. Et donc là, je m'oblige à écrire. C'est les moments où j'écris le mieux, c'est quand je suis seule, effectivement. Ouais.
Toi qui nous écoutes, je te conseille vivement de lire Natacha Astuto parce qu'elle a une écriture que je trouve vraiment magnifique. Elle réussit, tu réussis quelque chose d'assez incroyable. Je trouve que tu as une écriture extrêmement ciselée. Tes dialogues sont toujours très courts, très claquants. Tu as aussi une écriture parfaitement scénarisée. Je sais de quoi je parle, je suis scénariste de formation. Tu as une écriture très très précise aussi dans tes didascalies qui ont fait effectivement presque des scénarios, des pièces quand on les lit. Tu m'as donné l'opportunité d'en lire aussi en exclusivité. Donc je vois en tout cas que tu as une écriture qui est très descriptive. Et je remarque à l'intérieur de ça aussi que tu as une inspiration, je dirais presque américaine. Est-ce que l'Amérique t'inspire? Est-ce que les grands espaces t'inspirent?
Oh là là, est-ce que l'Amérique m'inspire? Plus que ça, c'est un euphémisme que l'Amérique m'inspire. Oui, évidemment, en particulier les grands espaces, oui. J'aime les grandes villes, les très très grandes villes. J'ai une fascination pour les grandes villes. J'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'urbain. Et puis finalement, je me rends compte que j'aime aussi les grands espaces, pleins de vide. Où il fait sec, où il fait chaud, et c'est vraiment ce que j'aime particulièrement. Donc, le pays dans lequel je le vis n'est pas tout à fait celui-là, mais c'est vrai que j'ai cette attirance, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, parce que la toute première fois que je suis allée aux États-Unis, j'y suis allée en me disant oui, bon, de toute façon, j'ai tellement vu ça à la télé que de toute façon, oui, je vais pas être tellement surprise. Et j'ai vécu un choc. J'y suis allée en étant blasé ou en pensant que j'allais être blasé là-bas, en me disant que oui, bon ben voilà, comme ça j'ai pu dire que j'ai vu les States. Et en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été une histoire d'amour, un coup de foudre. Et donc effectivement, ça m'inspire. Après, pour ce qui est des dialogues, des histoires, ah bon, après je suis une enfant de la télé, quoi. Hein, faut pas non plus voiler la face. Je suis une accro aux séries télé, donc j'en ai tellement. Vu et binge-watché, ah non, comment on doit dire en français, dévoré, que du coup, ouais, ça m'est arrivé de me coucher à 3 heures du matin en pleine semaine parce que je voulais voir le dernier épisode d'une saison. Donc en fait, forcément, ça m'influence. Quand j'écris, je me dis pas, ah oui, alors je vais écrire au style de, ou ah bah tiens, je vais faire un truc genre Breaking Bad, ou je vais faire quelque chose genre House of Cards, ou je sais pas quoi. Pas du tout. Mais je pense que c'est à l'intérieur de moi, ça m'a imbibé, j'imagine.
Justement, ça me fait penser qu'on est de la même génération, même si on a 27 ans. On est aussi des enfants de la pop culture. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui lit très 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 peu, mais je me sens comme toi, énormément inspiré par les séries américaines, ce genre de choses, parce que je trouve qu'ils ont un talent d'écriture là-dedans, non seulement pour les histoires qui sont épiques, qui sont grandes, mais aussi pour les personnages qui sont toujours tellement bigger than life que même le mec ordinaire, effectivement, tu parlais de Breaking Bad, moi je vais te parler de Six Feet Under, qui pour moi a été une révélation, cette série.
Moi, une des révélations que j'ai eues, c'est The Wire. C'est une des séries qui s'appelle en français Sur Écoute, qui était une vraie révélation parce qu'elle est construite d'une manière inédite à ce moment-là, parce que les personnages sont réels et parce que c'est une série qui se voile pas la face, et puis toute cette vie cachée de Baltimore m'a complètement fascinée à l'époque. Et je crois que c'est cette série-là, qui est une vieille série d'ailleurs maintenant pour aujourd'hui, qui m'a fait commencer à être fascinée par ces séries. Je crois que ces dernières années, on a été vraiment gâtés par les séries. Et les Français commencent à faire des bons trucs.
Il y en a quand même quelques-unes qui arrivent, effectivement.
Oui, effectivement.
Est-ce que ça t'intéresserait, justement, de participer ou d'écrire une série ou d'avoir une idée par rapport à ça?
Oui et non. C'est-à-dire que je préférerais jouer dans une série, mais je crois que j'aimerais beaucoup écrire une série, mais je ne pourrais pas le faire seule. Parce que c'est une immense... Bon, de toute façon, rares sont les séries qui sont écrites par des gens seuls, mais finalement, je pense que je préfère écrire des scènes, écrire des moments, des dialogues, plutôt que des histoires. Et du coup, je sais pas, construire une fresque comme Game of Thrones, par exemple, je me perdrais dedans et
tu te sens plus dialoguiste que dramaturgiste, en tout cas dans la construction de la dramaturgie.
Complètement, ouais, complètement.
Tu es auteur, donc c'est le monde de l'écriture, comme beaucoup d'autres mondes aussi, est un monde encore d'hommes, même si on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ces derniers mois. Est-ce que, moi je vois très très peu finalement d'auteurs femmes au théâtre réussir, je trouve finalement que j'ai assez peu de confrères. Est-ce que tu sens quelque chose, soit du l'ordre de, enfin je sais pas, tu vois, un rapport de force entre hommes et femmes, est-ce que t'es considéré, est-ce que tu sentirais comme un plafond de verre aussi de ce côté-là?
Ça a été une surprise pour moi totale, en fait, parce que j'ai une formation d'ingénieur en mécanique, donc j'évolue dans un métier dit masculin depuis fort longtemps, bien que je n'ai que 27 ans. Et puis, en ayant toujours vécu ça, donc dans un monde majoritairement masculin, j'ai été surprise que dans le monde de l'écriture, ce soit le cas. Parce que je m'y attendais pas, en fait. Bon, déjà, j'y avais pas pensé, évidemment. Mais je m'y attendais pas. Et j'ai mis long à me rendre compte qu'en fait, il y avait peu de femmes. Je pensais que dans l'écriture, c'était plus égal, en fait, qu'il y avait 50% d'hommes, 50% de femmes, j'en sais rien. Et en fait, non, effectivement, on est obligé de constater que non. Et j'arrive pas à bien comprendre de quoi ça vient. Que ça me dérange, oui, c'est un fait. Que j'en souffre, que je le remarque, je suis pas suffisamment jouée aujourd'hui, ou peut-être pas suffisamment dans les réseaux parisiens, comme toi tu peux l'être, pour le sentir comme ça, en face à face, on va dire. Je l'ai vécu plutôt en discrimination positive jusqu'ici, c'est-à-dire que j'ai été invitée dans des tables rondes dans certains endroits
parce que j'étais une femme.
J'étais une femme, j'étais jeune malgré tout par rapport à certains auteurs qui sont bien plus âgés que moi, et en plus je venais de Suisse, ce qui faisait qu'avec ça tu faisais d'une pierre trois coups, tu avais quelqu'un qui venait de l'étranger, qui était une femme et puis qui rajeunissait un tout petit peu, qui descendait un peu la moyenne d'âge.
Donc stone, three birds.
Exactement, one stone, three birds. Et du coup, j'y ai plutôt jusqu'à maintenant tiré avantage, mais après, il y a tout ce que je vois pas. C'est-à-dire tous ces éditeurs qui, avant que les mandarines publient Le Dernier Train en 2014, tous ces éditeurs qui m'ont dit non, tous ces comités de lecture à qui j'envoie mes pièces qui me disent non, je sais pas, peut-être que c'est dû à ça, je sais pas, ou peut-être aussi que c'est parce que je suis pas pistonnée, je ne sais pas. Donc je peux pas vraiment vraiment répondre à cette question. Je l'ai vécu effectivement où on m'a eu dit « Ah, c'est étonnant, une femme qui écrit des horreurs pareilles ». Ça, j'ai eu. Mmh. Bon, voilà. D'autres qui m'ont eu dit, ah, mais vous êtes jeune pour écrire des choses comme ça, vous connaissez rien de la vie. Oui, bon, quand même. C'est gentil, mais bon. Donc, ouais, mais je sais que ça existe. Je peux pas dire, ah ben non, moi je l'ai pas vécu, donc ça n'existe pas. Je le vois bien. La preuve, c'est que j'aime bien suivre, les Molières, les Césars, les Oscars. J'aime bien suivre tout ça. Et une des premières choses que je fais, c'est que je vais au texteux en général, je descends voir les scénaristes, les meilleurs scénars ou les meilleures adaptations, etc. Et quand je vois les noms, de temps en temps, il y a une femme, quoi. Mais c'est très rare. Et ben, les réalisateurs, c'est la même chose. C'est un problème. Donc, on va pas se voiler la face. Il y a un problème dont je peux pas témoigner maintenant.
Est-ce que justement tu sens une différence entre... Parce que vous avez tourné avec la pièce de Jean-Paul Allègre sur laquelle je t'ai découverte en tant que comédienne qui s'appelle Moi au tas,
Rivière d'Hiroshima.
Rivière d'Hiroshima, une pièce que vous avez beaucoup tournée.
Ouais, une magnifique pièce. Il a vraiment réussi, Jean-Paul. Elle est très très belle, cette pièce.
Voilà, je ferai un jour un podcast avec lui, mais ce sera un podcast de 67 heures.
Ah oui, je pense qu'avec Jean-Paul, il faudra
Je
un peu
pourrai
plus
jamais
de
le
temps.
couper, lui.
Tu ne pourras pas.
Jean-Paul, si tu nous écoutes.
Salut Jean-Paul.
Voilà, et donc tu as pu tourner cette pièce en Suisse et en France. Est-ce que tu as senti des différences?
Alors fondamentalement, à part le fait qu'en France, les techniciens, étant donné les normes de sécurité, refusent d'éteindre les sorties de secours, les chemins de fuite, et que c'est vraiment pénible pour jouer parce que on a un metteur en scène, Cédric Lobsher, qui nous fait des magnifiques lumières et eux, ils nous laissent des loupiottes vertes et c'est agaçant. Alors qu'en Suisse, on fonctionne autrement, on éteint et puis c'est le technicien qui lance l'alarme si jamais il devait y avoir le feu. J'ai pas vu de différence vraiment, à part cette anecdote que je raconte pour plaisanter, j'ai pas vu de différence fondamentale à part peut-être, puisque j'en ai déjà une fois parlé avec toi, une différence de moyens peut-être dans les théâtres, ouais, effectivement. Au niveau du matériel, au niveau de la vétusté du bâtiment, peut-être, effectivement.
Et puis tu as des compagnies amateurs suisses aussi qui sont soutenues par la loterie romande, c'est ça?
Oui, la loterie romande, c'est la française des jeux, mais de la Suisse romande, et qui en fait redistribue ses bénéfices pour la culture et pour le sport. Et donc effectivement, on a des troupes qui en profitent. C'est pas partout pareil dans les cantons, et toutes les troupes n'en profitent pas parce que la loterie romande n'aide pas forcément tout le monde tout le temps. Et visiblement, ces dernières années, ça s'est un tout petit peu resserré au niveau des critères. Mais effectivement, il y a du soutien qui est là, il y a du soutien qui vient du privé. Et puis, les troupes d'amateurs ont cet avantage-là d'avoir des gens qui ont un travail à côté et qui ont donc de l'argent pour se payer leurs propres costumes, pour se payer leurs propres billets pour partir aux tournées. Donc forcément, ben,
Ouais.
ça aide aussi la troupe en général.
Oui. Moi, je te connais bien. Maintenant, je sais que t'es un petit peu punk sur les bords, mais est-ce que tu penses que le théâtre, ça peut être sexe, drogue et rock'n'roll?
La vie est sexe, drug and rock'n'roll.
Très bien.
Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Après, pour moi, c'est une métaphore. Le sexe, c'est plein de choses. La drogue, c'est plein de choses. Et le rock'n'roll, c'est une seule chose. Pardon, je l'avais pas préparé, celle-là, c'est sorti comme ça. Mais évidemment, non, je dis pas qu'il faut se mettre de la poudre dans le pif. Clairement pas. Je trouve ça même. Vraiment une mauvaise idée et même con, il faut éviter. Clairement, par contre, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent être de la drogue finalement que oui.
Je l'ai dit sur la présentation, tu as une pratique du Krav Maga, qui est un art de défense, je crois, israélien, si je ne dis pas de bêtises,
Mais c'est ça.
de manière professionnelle, quasiment, non? Enfin, de
Non,
très haut
quand même
niveau,
pas.
non? Non, non, vous
Non,
avez...
non, 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 pas du tout très haut niveau. Non, attends, j'ai mes collègues qui, eux, ont un très haut niveau, qui vont se marrer en écoutant ça. Non, non, maintenant, c'est plus qu'un sport. C'est vrai que c'est une passion, au même titre que le théâtre, je dirais. C'est un besoin. Je m'entraîne
Qu'est-ce
trois
que
fois
ça
par semaine.
t'amène? Alors voilà, parce qu'on a ça aussi en commun, toi et moi, c'est le sport. Moi, pratiquant beaucoup de fitness, enfin de musculation plus exactement, qu'est-ce que t'amène le sport dans ta vie et dans ton... Est-ce que ça t'amène quelque chose dans ton travail, en fait? Dans ton
Ouais.
travail d'auteur, hein, j'entends.
Ouais, plus dans mon travail de comédienne que dans mon travail d'auteur, je dirais, quoique, ça m'apporte un équilibre. Ça m'apporte un équilibre, entre mon corps et mon esprit, j'ai envie de dire ça comme ça, où ouais, le fait de bouger, le fait de pouvoir avoir une meilleure mobilité, de me sentir bien dans mon corps m'aide à jouer. Ça, c'est, je vois vraiment, j'ai vu la différence sur scène. Notamment pour jouer Ota, où je porte un costume lourd, relativement confortable, mais lourd et parfois encombrant, où je dois rester 3 minutes et 20 secondes dans une position désagréable, accroupie par terre, sans bouger. J'ai vu la différence grâce au sport. Mais après, c'est aussi que ça me vide la tête, ça me fait du bien. Et puis, ça me sort un petit peu de ma zone de confort parce que écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, qu'on pense que ce que je fais est beau ou pas beau. Je sais écrire, on va dire. Après, on n'aime pas ce que je fais, mais je sais le faire. Et par contre, le Krav Maga, quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée. Donc, en fait, je dois apprendre, je dois bosser. Ça me demande de répéter les cahiers techniques, de travailler, de bouger, de m'entraîner, de refaire des dizaines, des centaines de fois le même coup de pied. Et puis c'est un truc que fondamentalement, je suis pas forcément capable de faire. C'est-à-dire, de base, je suis quelqu'un qui a de la volonté, qui a de la hargne, où je vais recommencer plein de fois jusqu'à ce que j'y arrive, quand je dois faire quelque chose. Mais au niveau du sport, au niveau de mon corps, c'était pas quelque chose forcément de si évident que ça. Donc ça me demande une certaine discipline que je pense que j'avais pas, que j'ai peut-être pas encore tout le temps, et donc ça me fait progresser beaucoup au niveau de la discipline. Après, rien.
Qui a dit, et est-ce que tu es d'accord, le théâtre ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela?
Alors j'ai pas la référence, donc je ne sais pas qui l'a dit,
Alors
mais je suis d'accord.
c'est Laurent Terzieff qui a dit ça.
D'accord. Ben, je suis d'accord avec Monsieur Terzieff.
Est-ce que toi tu arrives à dire le théâtre c'est trois petits points?
Non, non. Moi, je réponds toujours un peu la même chose parce que c'est ce que moi je ressens. C'est d'avoir plusieurs vies. Pour moi, c'est ça. Mais c'est pour moi. C'est pas c'est en général comme si c'était une vérité. D'ailleurs, j'aurais aucune vérité. Mais pour moi, c'est d'avoir plusieurs vies. C'est-à-dire que un des plus gros regrets que j'aurai toujours, c'est de n'avoir qu'une vie, puis de pas pouvoir tout faire dedans. Et du coup, le théâtre me permet ça. Le théâtre me permet d'être une rivière, me permet d'être plein de personnages qui vivent en Arizona, me permet là maintenant d'être dans les années 40, dans la résistance française. Donc, le théâtre me permet ça. Il me permet d'avoir plusieurs vies que je ne peux pas avoir pour de vrai. Donc je les ai par ce chemin-là. Donc c'est capital pour moi. C'est question de survie.
Alors on va terminer avec quelques questions que je pose que je vais poser. Tu es la première, tu vas étrenner ça aussi. Et donc tu me réponds du tac au tac ce qui te vient. Quelques questions qui seront posées à tous mes invités. Alors
J'ai
si tu
peur.
n'en es pas peur, si, tout va bien aller. Si tu gagnes au loto, quelle est ta première réaction?
Ben, je prends un billet d'avion, allez simple, pour la Californie.
Y a-t-il un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie?
Ouais, Rocky. Rocky, ouais, clairement.
Pourquoi?
Parce que ça m'a fait comprendre qu'en travaillant, on pouvait arriver à tout. Enfin, ça m'a fait en tout cas croire à ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu le rêve américain dans ce film-là. Et moi, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu Rocky la première fois quand j'avais, je crois, 10 ans. Et c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un mec qui avait un rêve et qui a bossé comme un fou pour y arriver. Et du coup, ouais, je suis une inconditionnelle de Rocky.
Ça plaira beaucoup à mon préparateur physique Théo, parce que sa phrase d'accroche de son site, c'est le travail paye toujours. Si tu n'écrivais pas, tu ferais quoi?
Si je n'écrivais pas, je ferais quoi? Je serais comédienne.
Quel est ton plus bel échec?
Ah ouais, il y en a beaucoup, hein. De m'être fait virer.
Ton endroit préféré au monde?
Death Valley en Californie.
Il y a une expression américaine qui est le motto, qui est en gros la devise, le truc qui te motive au quotidien. Qu'est-ce que c'est, toi?
Ouais, j'en ai. Il y en a tellement de ces phrases que j'aime parce que j'adore les citations, mais je dirais que celle qui me fait du bien ces dernières années, c'est une qui est dans le dernier Rocky, dans Creed. En fait, oui, désolé, mais
Non, non, mais c'est très bien.
qui est en fait one step at a time, one punch at a time, one round at a time. Ça veut dire un pas à la fois, un coup de poing à la fois, un round à la fois. Et je pense que pour ma carrière d'auteur, c'est ce qu'il faut que je me répète sans arrêt. Un jour après l'autre, un pas après l'autre.
Et pour terminer, quel est ton mot préféré?
Putain.
Alors, quelle est ton actualité dans les mois à venir, rapidement? Est-ce qu'il y a des pièces qui se jouent? Est-ce qu'on va pouvoir voir du Natacha Astuto quelque part très bientôt?
Alors, j'ai ma pièce Issue de secours qui a commencé en répète là ces derniers temps. Donc en fin d'année normalement ils vont la créer. Donc c'est la compagnie Théâtre 58 qui va la créer, mise en scène par Cédric Lauchère avec Françoise Auffaure et Jean-Pierre Durieux dans les deux rôles. Donc ça c'est pour la fin de l'année. Arizona aussi qui devrait être sur les scènes de Suisse et de France, j'espère. Début de l'année prochaine, début 2019, donc en deuxième partie de saison, avec une distribution internationale. Donc ça, j'ai hâte.
On dira pas qui c'est que t'as casté dedans.
Non, on dira pas qui c'est qu'on a casté,
Non,
on
non.
dit pas là. Et sinon, oui, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle Cinquième étage, qui se passe dans les années 40, sous la France occupée. Dans la France occupée et je suis en train de me passionner pour ça parce que j'ai toujours été intéressée par la Deuxième Guerre mondiale, mais la partie France sous l'occupation, je l'avais moins étudiée. Et donc là, je suis dans les archives, dans les interviews, dans plein de choses qui me portent comme ça, puis qui sont passionnantes. Donc j'espère que cette pièce qui est attendue par la troupe Alex, qui est une troupe de La Roche-sur-Foron, sera jouée l'année prochaine, j'espère. Et puis sinon, Angelina, que je viens de terminer, qui se passe en Italie dans les années 80, que tu as lu d'ailleurs tout récemment, et qui j'espère sera jouée encore cette année.
Bon, que d'actualité. Si on veut acheter tes bouquins, on peut les trouver sur ton site.
Oui, sur mon site natachaastuto.ch
Et donc
et sur le site
au site de
de ma maison,
Mandarine.
oui, de ma maison d'édition Les Mandarines.
Les Mandarines, voilà. Et en tout cas, Natacha, merci d'avoir essuyé les plâtres avec moi
Ouais, merci à toi.
de cet épisode 1. Moi, en tout cas, j'apprends beaucoup de choses de toi et ça m'intéresse grandement.
Mais merci à toi, j'ai un plaisir fou à parler avec toi. Et puis je te remercie de m'avoir fait l'honneur de cette
Et
première.
tu es la marraine.
Oui, bah c'est génial, je suis très honorée.
Très bien. Bon, bah, quant à toi, la compagnie, j'espère que ce premier épisode t'aura plu. N'hésite pas à le commenter là où tu l'auras entendu. Ça rime, c'est génial. Sur PodCloud, sur iTunes, sur notre plateforme, y compris sur mes réseaux sociaux ou ceux de Natacha. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut.